Lyon demain, créateur d'envie.
C'est une compétition nationale, pas des moindres, les World Skills, on disait autrefois les Olympiades des métiers. Cette compétition est ouverte à tous les jeunes de 23 à 26 ans. 800 champions régionaux venus de toute la France vont participer aux 3 jours de compétition à Eurexpo. L'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes réunit à elle seule 82 jeunes en compétition dans 68 métiers. L'industrie, chaudronnerie, fraisage, tournage, soudage, pour ne citer que les plus classiques, ou encore la construction, charpente, ébénisterie, menuiserie, peinture et décoration figurent parmi les classiques là aussi. Au-delà de la compétition, il s'agit de faire découvrir aux jeunes des métiers dont ils n'imaginent même pas l'existence parfois. Nicolas Salagnac est graveur, médailleur, meilleur ouvrier de France en 2000 et président des MOF du Rhône aujourd'hui. Il était ce week-end au village des métiers installé place des Jacobins. C'est là qu'on l'a rencontré.
Tous les jeunes qui passent savent ce que c'est qu'une médaille, mais comment on fait une médaille? Se dire que c'est un métier. On a aussi un bronzier d'art, on a quelqu'un qui fait de la motion capture et tout ça, donc les métiers numériques et potentiellement les meilleurs ouvriers de France, c'est tous les métiers.
Alors comment on fabrique une médaille? Dites-nous un petit peu quelques secrets.
Ah bah non, je ne suis pas là pour dire des secrets. Bah, le secret, c'est qu'on doit graver une matrice en acier et pour ça, je suis obligé de travailler à l'envers et en creux. C'est un métier d'art rare même. Et donc la première étape est dans les compétences, c'est maîtriser le dessin, être curieux, créatif. Et là, en l'occurrence, je travaille sur la médaille des sénateurs. Et donc là, c'était un concours sur la thématique de la République française. Et donc j'ai proposé un dessin qui a été validé. Après, il faut faire une sculpture en bas-relief à une échelle 3 fois plus grande. La médaille en finale fait 50 mm de diamètre. Et c'est Artus Bertrand qui fera l'édition de cette médaille-là. C'est eux qui, de ma sculpture, ont fait la réduction gravée dans l'acier avec une commande numérique. Et là, moi, je suis en train de travailler à la main pour finir le travail pour qu'il soit beau, précis. Et j'explique et je montre au public.
Comment on fait pour devenir un médailleur?
Moi, l'histoire est assez banale et on est plusieurs dans ce cas-là. J'étais plutôt pas bon à l'école, plutôt au fond de la classe. Et on me disait qu'on ferait rien de moi parce que je m'ennuyais à l'école. J'avais heureusement un grand-père ébéniste qui m'a dit « quand tu seras grand, tu iras à l'école boule ». Donc je savais pas ce que c'était que l'école boule. J'arrive en fin de troisième et vraiment ça se passait pas bien pour moi à l'école. Et je tente le concours d'entrée à l'école boule, je suis pris. Ils en prennent 60, je suis le 60e. J'arrive en septembre, je pensais qu'il y avait que ébénisterie, il y a 15 ateliers. Je me retrouve en gravure avec un prof génial. Et puis je me mets à bosser, je me mets à être passionné par ce que je fais. Je deviens pas mauvais à l'école et plutôt dans le peloton de tête. Et après, bah, je sors de l'école au bout de 5 ans. Je suis embauché par des patrons et j'arrive en 92 par là à Lyon pour être chef d'atelier à 25 ans. Et puis je passe le concours de meilleur ouvrier de France après. Je suis à mon compte depuis 2001.
La leçon, ça veut dire qu'on peut être dernier de la classe puis tout à coup finir finalement dans l'élite, entre guillemets. Hein.
Exactement. Et en même temps, on ne se connaît pas tous les meilleurs ouvriers de France. Et il y a des gens qui passeront jamais le concours de meilleur ouvrier de France et qui mériteraient de l'être. Mais dernièrement, tout le monde connaît ici à Lyon Christian Tête-d'Oie. Bah, je découvrais un tout petit peu plus son parcours et le fait que, pareil, ça ne se passait pas très bien pour lui à l'école. Et qu'à 13 ans, il a trouvé la possibilité de partir en apprentissage. C'était un an avant l'âge légal. Et il évoque que ça a été une chance pour lui puisqu'il avait un an d'avance sur ses collègues qui l'a rencontré. C'est toujours pareil, hein, c'est quand même une question de rencontre. Il a rencontré quelqu'un en cuisine et ça lui a donné des étoiles dans les yeux. C'est quasiment tout ce qu'on a vécu plus ou moins. Donc la mission aussi des meilleurs ouvriers de France, c'est de pouvoir redonner ça. Tout le monde ne deviendra pas graveur médailleur, tout le monde ne deviendra pas grand chef étoilé comme Christian Tête-d'Oie. Mais ce qui compte, c'est qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin que tout le monde trouve sa place. Et à un moment donné, ça fait partie des piliers fondamentaux de notre société, de travailler pendant un certain temps avant de penser à sa retraite et tout ça. Tant qu'à faire, faisons un métier qui nous plaît et je le souhaite à tout le monde. Et si on peut avoir des étoiles dans les yeux, on découvre, quand on maîtrise bien son travail, qu'on apprend tous les jours.
Bernard Frisa est pour sa part bronzier d'art et orfèvre. Il a accepté de nous raconter son métier et son parcours professionnel.
J'ai une formation de bronzier d'art que j'ai faite à l'école Boulle à Paris, l'école des métiers d'art à Paris. Et je me suis installé à mon compte après avoir enseigné à l'école Boulle. Je me suis installé à mon compte en 2010 sur Lyon. Mon métier consiste à restaurer et à fabriquer tous les objets qu'on peut trouver dans la décoration intérieure, que ce soit du luminaire, que ce soit de la sculpture en bronze, que ce soit ce qu'on appelle la serrurerie décorative ou du bronze d'ameublement, tous les bronzes que vous avez sur les meubles en l'occurrence. Ça peut être aussi de l'orfèvrerie, de l'art liturgique. C'est extrêmement varié et diversifié.
Donc on l'a compris, c'est un métier quand même qui est plutôt manuel, mais avec peut-être des nouvelles technologies.
C'est un métier très manuel. On a des machines assez anciennes et des outillages relativement anciens, puisque c'est des outillages en général qui étaient mis au point au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais ça ne nous empêche pas quand même d'avoir recours à des techniques très modernes, comme la découpe au jet d'eau. Moi-même, j'ai un logiciel de dessin assisté par ordinateur et je conçois mes pièces sur ordinateur.
Alors vous êtes sur quel travail en ce moment ?
Plein de choses à la fois. Ouais. Plein de choses à la fois. J'ai entre autres des très très belles, ce qu'on appelle des candélabres d'un grand bronzier du XVIIIe siècle pour un collectionnaire privé qui est en train d'équiper son château, et je dois entièrement remettre ces candélabres en état. Donc j'ai été chercher sur internet un certain nombre de documentations pour reproduire ces candélabres et pour ajouter les pièces qui étaient manquantes. Ces candélabres ont été malmenés par différents propriétaires, et c'est des pièces remarquables qu'il faut remettre vraiment dans leur état d'origine. Donc ça, c'est vraiment un très très gros chantier. J'ai un autre chantier en collaboration justement avec Nicolas Solagnac, qui est graveur. Je fais des croix canoniales, qui sont des croix pour le diocèse, pour un diocèse de France, un diocèse liturgique, donc, et je dois leur faire des croix canoniales. Donc ce sont des croix qui sont en argent massif, qui vont être émaillées, ce qu'on appelle nous grand feu, c'est-à-dire c'est un émaillage vraiment haut de gamme, et qui vont être après dorées à leur fin. Et c'est des croix qui sont remises donc à des chanoines dans les diocèses. Après, j'ai un certain nombre de pièces à restaurer pour des particuliers, pour des antiquaires. Je dois aussi remettre en état des chandeliers et une croix pour une grande basilique. Voilà, j'ai beaucoup de chantiers en cours.
Quel message qu'on peut donner aux jeunes alors qui voudraient se lancer dans ce métier, puisqu'il y a déjà beaucoup de débouchés, hein. Ça semble être un métier de niche quand même.
Alors c'est un métier de niche, on est peu nombreux, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de travail, ne serait-ce que pour la restauration du patrimoine. Il y a quand même beaucoup de travail et il faut être créatif, imaginatif. Il y a des fois, moi je reçois des pièces à l'atelier, je ne sais pas du tout comment je vais les restaurer, comment je vais les appréhender, et après quelques semaines ou quelques jours de réflexion, tout d'un coup j'ai l'idée géniale. Donc il faut être assez créatif, avoir beaucoup d'imagination, voilà, être relativement curieux au niveau artistique et dessin, ça c'est important.
On est forcément à son compte quand on fait ce métier ou...
Non, il y a des grosses sociétés de restauration ou de fabrication, parce que là ils sont obligés de se spécialiser, qui ont 40, 50 personnes.
Vous, vos projets, c'est quoi actuellement là ?
Je continue tranquillement à mener ma barque en tant qu'artisan pendant encore quelques années avant de prendre ma retraite. Et peut-être après, comme je fais partie de l'association des meilleurs ouvriers de France sur Lyon, d'avoir une activité plus de conseiller ou aller vers les jeunes pour leur faire découvrir mon métier. Ce qu'on fait déjà avec les meilleurs ouvriers de France, parce qu'on fait des conférences auprès des classes de 5e et de 4e dans les collèges pour leur faire découvrir nos métiers.
Et c'est facile de transmettre son entreprise une fois qu'on arrête là ?
Je vous cache pas que j'ai déjà 2-3 jeunes qui sont intéressés et qui me contactent régulièrement et qui gardent le contact pour reprendre mon société, pour reprendre mon atelier. Moi-même, j'avais repris l'atelier d'un Lyonnais qui avait été créé en 1944, et j'ai repris donc l'atelier d'un Lyonnais à l'époque qui était sur Villeurbanne.
69 métiers sont représentés, 740 jurés et experts métiers seront chargés de départager les jeunes, mais 100 000 visiteurs surtout sont attendus à Eurexpo pendant ces 3 jours, dont 20 000 jeunes sous l'impulsion des collectivités locales et de la région académique. Objectif affiché, susciter des vocations et mettre en valeur les formations du territoire.